Aujourd'hui, nous allons continuer dans l'étude d'un prophète qui ne voulait vraiment pas annoncer la bonne nouvelle. Et Dieu l'a utilisé, et en même temps, il veut nous encourager, il veut nous exhorter. Et je parle bien sûr du prophète Jonas. Je vous invite à vous y tourner. Prophète Jonas ou Jonas, ce sont il fait partie des petits, ce qu'on appelle communément les petits prophètes, non pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais simplement parce que leurs écrits sont plus petits en volume que ceux des prophètes mieux connus comme Ésaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel. Il n'empêche que ces textes sont là, donnés par le Saint-Esprit pour notre instruction, pour être repris, formés, équipés. Et c'est avec joie que nous avons commencé cette étude du prophète Jonas. Alors, priez et lire le texte d'aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu d'amour, et Seigneur, nous voulons souvent nous réclamer de ton amour et penser que nous aimons tous les hommes, mais souvent notre comportement, comme celui du prophète Jonas, montre qu'en fait nous avons des ennemis à qui nous ne souhaitons pas du bien. Seigneur, pardonne-nous et enseigne-nous par le récit de cette vie de Jonas, de ce grand miracle que tu as pu accomplir. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est sans doute le plus grand réveil de l'histoire de l'humanité, Seigneur. Seigneur, ce qui est remarquable, c'est que tu l'as accompli avec un homme qui te désobéissait, un homme qui n'avait pas d'amour pour les gens à qui il a annoncé la nouvelle du salut. Et pourtant, Seigneur, tu lui as donné le plus grand des succès. Seigneur, mais on sait que c'est toi qui l'utilisais, c'est pas lui qui voulait ces choses. Seigneur, tu veux de la même façon, tu veux le salut de tous les hommes. Tu veux le salut de ceux que nous prenons parfois comme nos ennemis, comme ces témoins de Jéhovah, ces mormons qui enseignent des choses qui n'ont ni queue ni tête, qui ne sont pas basées sur ta parole en vérité. Tu veux sauver ces terroristes, ces djihadistes, Seigneur, qui nous font peur. Tu es mort pour tous les hommes, Seigneur. Aide-nous à mieux le comprendre. Aide-nous à mieux le mettre en application, Seigneur, par nos vies, par nos témoignages, par notre amour de ceux qui ne sont pas aimables, Seigneur, mais que tu as créé et que tu veux voir venir à la connaissance de la vérité. Tu veux qu'ils se repentent. Seigneur, sois béni. Aide-nous, par ton Esprit Saint, Seigneur, à comprendre un peu mieux ce texte, et Seigneur, agis dans nos cœurs. Je prie pour des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles de prophétie dans ce que je vais pouvoir dire. Seigneur, que ce soit toi qui guides mes paroles, parce que tu veux nous toucher, tu veux me toucher, tu veux toucher ceux qui sont ici aujourd'hui et ceux qui écoutent ce message sur Internet. Sois béni, Seigneur, pour ton grand amour manifesté à la croix en Jésus-Christ. Amen. Amen. Fameuse histoire de Jonas, du prophète Jonas. Le texte de Jonas, en fait, ne comporte pas tellement de prophéties, Il n'empêche que Jonas était un prophète et nous l'avons rappelé. Il y a des passages où on voit qu'il a, dans Deux Rois, où il avait annoncé l'ampleur du territoire que prendrait Israël. Et donc c'est quelqu'un qui a été utilisé comme prophète. Et surtout, il est connu et son existence est attestée, son existence comme un personnage historique est attestée par Jésus-Christ lui-même, qui disait que c'est la génération à laquelle il vivait, à l'époque où il vivait, voulait un signe, alors qu'il avait déjà accompli de nombreux signes. Il voulait un signe et leur disait qu'aucun autre signe ne leur serait donné que celui de Jonas. Le signe de Jonas qui était resté 3 jours et 3 nuits dans la baleine, ce n'était pas une baleine, dans un grand poisson, que c'était en fait une illustration de ce que Jésus-Christ allait être et allait devenir pour nous, allait faire pour nous, mourir et être 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Alors il y a toujours cette question de compter les 3 jours, 3 nuits, ça fait 24 fois 3, 72 heures. En fait, il est important, et donc des fois il y a un problème de se dire, mais si Jésus est mort à 3 heures de l'après-midi, qu'il est ressuscité le vendredi, et s'il est ressuscité le dimanche matin, ça ne fait pas tout à fait 72 heures. En fait, il est important de savoir que si quelques heures d'une journée étaient incluses dans un événement, on considérait que la journée entière était incluse dans cet événement. Donc 3 jours, ça ne veut pas nécessairement dire 72 heures. On a vu aussi que Dieu avait donné une mission. Au tout début du texte, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Donc, cet homme reçoit un message, clairement un message de la part de Dieu, la parole de l'Éternel lui est adressée et lui donne une mission. « Lève-toi et va à Ninive. » Ninive, c'est une des grandes villes de l'Antiquité. C'est même probablement la plus ancienne des grandes villes. On voit dans la Genèse 10, il est question de cette ville qui aurait été bâtie, créée par un dénommé Assur, qui était en fait l'arrière-petit-fils de Noé. Cette ville était la capitale de l'empire assyrien. L'Assyrie, c'était le grand empire de l'époque, et c'était aussi les Assyriens étaient les ennemis du peuple de Dieu, des Juifs, et on sait qu'ils ont emmené en exil le royaume du Nord, que le royaume du Sud a miraculeusement été sauvé de leurs attaques, mais c'était un peuple connu pour sa férocité, son agressivité et sa méchanceté. On sait que, on pense que c'est eux qui ont inventé le supplice de la croix, où on laissait quelqu'un sur une croix et on le laissait mourir de suffocation après l'avoir battu. C'est le supplice que les Romains ont repris en trouvant, ils avaient une grande connaissance du monde de l'époque, et ils avaient trouvé que le supplice le plus cruel, c'était celui de la croix. Mais on a déjà vu dans les autres prophètes qui précèdent Jonas dans l'ordre biblique, qu'ils pouvaient être très, très cruels avec leurs ennemis. Ils emmenaient leurs esclaves, les peuples qu'ils capturaient, ils les emmenaient en les attachant par la bouche avec des hameçons. Ils faisaient marcher les premiers et je peux vous garantir que les autres essayaient à tout prix de suivre. Ils étaient connus pour utiliser des tortures terribles. Ils pouvaient empaler les gens sur des pieux et les laisser mourir aussi. Ils pouvaient arracher les paupières des hommes et des femmes et les laisser mourir en plein soleil. Donc si vous cherchez de la barbarie, vous pouvez aller voir ce que faisaient les Assyriens. Et comme je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, c'est intéressant que Ninive, maintenant c'est la ville de, c'est à peu près à l'emplacement de la ville de Mossoul en Irak, et que c'est un endroit où sévit Daesh. Daesh qui nous inquiète, qui nous fait peur, par la grande cruauté dont ils font preuve. Et j'ai dit, c'est un peu comme s'il y avait des territoires diaboliques, des principautés angéliques de mauvais anges qui habitaient ces endroits et qui inspiraient ces choses terribles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Irak, il y a un réveil. Il y a de plus en plus de chrétiens. Il y a en ce moment une conférence organisée par certains pasteurs de Calvary Chapel. Là où le mal sévit, Dieu veut montrer qu'il est le plus fort. Et c'est rassurant. Mais toujours est-il que lorsque Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive, il dit, j'ai mal entendu, Seigneur, je crois que tu veux m'envoyer en Espagne. Et au lieu de faire le voyage de 800 kilomètres à peu près qu'il aurait emmené à cette grande ville de Ninive, il part à 3200 kilomètres en Espagne. Il trouve un bateau. Et Dieu, la leçon, c'est que il est impossible d'avoir du succès lorsqu'on fuit loin de Dieu. Si Dieu vous appelle à faire quelque chose, il vaut mieux le faire tout de suite, plutôt que de se préparer des difficultés, des épreuves, parce que le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut utiliser pour attirer notre attention. Et là, vous le savez, on en a parlé, mais même si vous n'étiez pas là les semaines précédentes, il va causer une tempête sur le bateau qui devrait l'emmener en Espagne. Les marins finissent par savoir que cet homme fuit loin de Dieu et que c'est lui le responsable de leurs problèmes. Il a le mérite au moins de se présenter en sacrifice. Il leur dit « Jetez-moi à l'eau et vous verrez, tout s'arrangera ». Au début, sachant qu'il est prophète du grand Dieu des Juifs, ils hésitent, mais la situation allant en empirant, finalement ils le jettent à l'eau. Et là, Dieu a préparé un poisson. Alors les biologistes et les scientifiques et surtout les incrédules veulent montrer que c'est impossible qu'un poisson avale un homme. Mais on sait par expérience qu'il y a des animaux énormes. J'ai vu récemment un documentaire montrant des trois orques attaquant un requin tigre de 6 mètres ou 8 mètres de long. Et à trois, le poisson, le requin qui nous fait si peur, n'a aucune chance. Il y a un orque qui vient le saisir et l'immobiliser par le côté, et puis les deux autres viennent lui arracher le corps. Et ce requin, qui est pourtant un animal, un des prédateurs les plus terribles, il a trouvé son maître. Alors on ne sait pas si c'était un orque ou peut-être un cachalot, mais toujours est-il qu'il y a des poissons qui peuvent engloutir un homme. Et donc Dieu utilise un poisson pour attirer l'attention de ce prophète désobéissant. Il y a la question de savoir est-ce qu'il est resté vivant à l'intérieur de l'estomac du poisson. Et certains pensent que c'est tout à fait possible, parce que ce sont des cavités gastriques énormes, pour un cachalot par exemple, et qu'on peut imaginer qu'il ait eu assez d'oxygène dans l'estomac du poisson pour survivre. D'autres pensent qu'au contraire, peut-être, il est pour que l'analogie avec Jésus soit plus rigoureuse, qu'il est mort, mais il a eu le temps d'adresser une prière de repentance à Dieu. On a vu au chapitre 2 que c'était un homme qui connaissait la parole de Dieu. En quelques secondes, et c'est vrai que lorsque on lit la prière prononcée par Jonas, on s'aperçoit qu'il ne faut pas longtemps, et que même en étant aspiré par la gueule du poisson, il aurait eu le temps de prier. Et il dit au verset 6 du chapitre 2, « L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé, les axes enroulés autour de ma tête, je suis descendu. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, éternel mon Dieu. » Donc il est possible qu'il soit mort, mais toujours est-il qu'ayant passé un peu de temps dans l'estomac et dans les sucs gastriques acides. Vous savez, certains d'entre vous ont peut-être fait déjà l'expérience de remonter acide. Quand vous avez un peu un haut le corps ou que vous avez des problèmes gastriques, des fois l'acidité vous brûle l'œsophage. Là, il était apparemment en piteux état. Il avait perdu ses cheveux. D'autres les perdent sans passer par l'estomac du poisson. Mais lui, il n'avait plus d'un poil sur le caillou. Et par expérience, pour des personnes qui ont vécu ce genre d'épreuve, on sait que leur peau est complètement brûlée. Elle a perdu Elle devient presque transparente avec des taches. Bref, c'est pas très beau. Je vous invite à revoir ces passages sur Internet si vous voulez davantage de réflexion. Mais verset 11, l'Éternel qui a envoyé un poisson qui n'a pas reculé devant des moyens spectaculaires pour attirer l'attention de ce prophète, il parle au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Bref, une expérience difficile à vivre, mais il semble que le prophète soit vraiment prêt à obéir maintenant. Ce qui est remarquable, on va lire le chapitre 3, verset 11, l'Éternel parla au poisson, ça c'est le chapitre 2, la fin du... Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Chapitre 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva, et cette fois-ci, il alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette proclamation « Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Dieu fit ce qu'il faisait. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. » Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. On a fait remarquer qu'à l'époque, il y avait d'autres prophètes en Israël ou en Juda, et que Dieu aurait pu envoyer ces prophètes à Ninive. Il avait donné sa chance à Jonas, qui avait désobéi de la façon la plus claire et la plus flagrante qui soit possible. Si on faisait ça dans une entreprise, dans une compagnie, dans une société anonyme, une grande compagnie, le patron vous dit d'aller signer un contrat pour la vente de Rafale en Inde, et vous partez en Finlande, vous désobéissez aux ordres qui vous ont été donnés, à la mission qui vous a été confiée. Normalement, vous ne garderiez pas votre poste ou votre job. On vous mettrait à la porte pour faute grave caractérisée. Et même les tribunaux de prud'hommes ne pourraient rien pour vous. Mais là, Jonas a désobéi et Dieu vient encore vers lui pour lui demander une deuxième fois de faire ce qu'il lui a demandé une première fois et ce à quoi il avait si clairement désobéi, si lâchement ou sans, de façon vraiment évidente, caractériser une désobéissance. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Alléluia! Alléluia! Parce que la parole de l'Éternel qui m'a été adressée une première fois, Dieu est prêt à me l'adresser une deuxième fois, et même une troisième, une quatrième, une cinquième. Dieu est un Dieu patient. Dieu aurait pu encore une fois choisir quelqu'un d'autre, mais il voulait bénir Jonas, et donc il revient vers lui. Et combien de fois nous aussi, nous, nous disons non à Dieu. Si Dieu agissait comme nous avons tendance à le faire, ce serait fini. Pas de seconde chance. Ou alors, vraiment la dernière fois. Mais on sent que Dieu, c'est pas ça. Il adresse à Jonas une deuxième fois la parole et lui donne, il lui rappelle la mission qu'il lui a donnée une première fois. Dieu, dans la Bible, se montre comme un Dieu patient, un Dieu qui donne une deuxième, une troisième, une quatrième chance. Lorsque David a péché avec Bathsheba, on aurait pu penser que c'était la fin, c'était terminé. Mais le prophète Nathan a confronté David, donc Dieu a utilisé le prophète pour que David réalise, confesse ce qu'il avait fait, qu'il se repente. Et Dieu a continué d'utiliser David. Peut-être avec moins de panache ou d'envergure qu'avant, mais c'est après ces événements que David a écrit certains de ses plus beaux psaumes. Psaume 32, le psaume 51, on pense même que le psaume 23 a été écrit après le grand péché de David. Dieu nous donne une deuxième chance. Il l'a fait avec Jacob, il l'a fait avec Abraham, qui mentait au roi en disant que Sarah n'était pas sa femme, mais seulement sa sœur, ce qui était un demi-mensonge, mais qui était un mensonge complet quand même. Et ça doit nous encourager. Ça ne doit pas être une excuse pour désobéir. Mais lorsque le croyant se repent, lorsque le croyant demande pardon à Dieu sincèrement, Dieu est prêt à passer l'éponge et à recommencer avec nous. Et ça, si ça ne vous remplit pas de joie, d'espoir, de reconnaissance, alors je ne sais pas ce qui vous donnera de la reconnaissance, de l'amour pour Dieu, de la joie, de l'encouragement. Dieu est prêt à nous pardonner et à nous remettre sur nos pieds. Dieu est un Dieu de grâce, une faveur que nous ne méritons pas. Il lui dit donc d'aller à Ninive. La mission n'a pas changé. Il parle de la grande ville et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Est-ce que vous savez que Dieu vous a donné une mission ? Luc, Matthieu nous disent que avant de remonter aux cieux, Jésus a dit aux disciples, à son église, d'aller de par le monde, baptiser tous les hommes au nom de Jésus-Christ, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et de leur enseigner ce qu'il nous avait appris, d'en faire des disciples. Il ne nous dit pas nécessairement d'aller faire cela à Mossoul, en Irak. Il nous demande de le faire avec tous les hommes autour de nous. Dans vos familles, avec vos amis, avec vos collègues, avec vos voisins. Lorsqu'on désobéit à Dieu, il peut choisir de faire sa volonté par d'autres. Mais c'est notre perte. Parce que la vraie joie, c'est d'être utilisé par Dieu pour faire ce qu'il nous demande. Et combien de nous désobéissons à cet ordre donné par Jésus-Christ? On dit toujours que lorsqu'on est sur le point de mourir, là Jésus était ressuscité, il était sur le point de repartir vers le Père. Les paroles qu'on prononce en général, c'est des paroles importantes. On sait qu'on n'a plus beaucoup de temps, et les paroles qu'on prononce, c'est pour dire des choses qui nous sont vraiment capitales, qui sont vraiment capitales à nos yeux, des choses qui comptent. Jésus nous a dit de faire des disciples. Jésus nous a dit qu'il voulait que tous les hommes viennent à la connaissance de la vérité, qu'ils viennent à la repentance. Est-ce que comme Jonas, on dit « Oh, j'ai mal entendu, mais j'ai un match de foot aujourd'hui où je dois aller voir le programme à la télé ». Ça peut attendre, ou d'autres le feront, ou j'ai pas la formation, j'ai pas les connaissances théologiques pour débattre avec des non-croyants. La grande ville, c'était une grande ville historiquement. Encore une fois, elle avait été fondée dès la Genèse, c'était aussi une ville grande en taille. C'était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. On indique dans le passage de la Genèse qu'il y avait en fait plusieurs localités, des banlieues, comme on dirait aujourd'hui, qui était considéré comme la ville de Ninive, même si la ville de Ninive était plus réduite, c'était une grande ville. C'était une ville qui était grande en influence et en splendeur. Elle était à côté de la rivière du fleuve le Tigre. Il y avait un autre affluent qui passait au milieu de cette ville. On a vu que le prophète Nahum parle de Ninive aussi, et il fait allusion à ces rivières. Les marchands de la ville voyageaient à travers l'empire assyrien qui s'étendait. Les armées assyriennes étaient craintes partout. Et Ninive, c'était aussi une ville qui était connu pour son péché, pour sa méchanceté, pour sa violence, pour son manque de miséricorde envers ses ennemis. Je l'ai rappelé, le prophète Nahum, on le verra bientôt, parle aussi de ce péché, de cette méchanceté foncière. Mais Dieu a envoyé Jonas dans cette grande ville. Et quel était le message qu'annonçait Jonas? Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Vous allez tous y passer, tous autant que vous êtes. Chose qui m'a toujours frappé, étant habitant dans la ville où nous habitons, c'est que s'il n'y a pas 50 villes dans le monde qui soient importantes, qui soient assez grandes, et dont le nom commence par N-I. Il y a Nice et il y avait Ninive. Ah ! Maintenant, là, ça se rapproche de nous. On peut penser que c'est quelque chose de loin, c'est quelque chose dans le temps, dans l'espace. C'est vrai que maintenant, avec les avions, on peut aller en Turquie, essayer de prendre un transport jusqu'à Mossoul, mais ça reste loin. Mais en fait, notre ville est aussi une grande ville. On pense, parce qu'il est question de 120 000 personnes qui étaient incapables de distinguer leur main droite de leur main gauche, que peut-être ça voulait dire qu'il y avait 120 000 enfants dans la ville, ou même s'il y avait 120 000 habitants, c'était déjà très grand pour l'époque. Mais si c'était seulement les enfants, il est possible que toute la région de Ninive, c'était 1 million d'habitants. Un peu comme la taille de notre agglomération. Quand on prend le train, on arrive à Saint-Raphaël, et puis après, une fois qu'on est à Cannes, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des maisons et des bâtiments partout le long, tout le long. C'est une conurbation, c'est le terme qu'on emploie en géographie. Tout se touche. Et ça va comme ça pratiquement jusqu'à Monaco. Et la région, c'est une ville, la ville compte 350 000 habitants, la région c'est 1 million d'habitants. Nous aussi, nous avons une grande ville où il y a beaucoup de péchés. Parce que justement, il y a tout ce monde. C'est un pays où il y a du soleil, la plage, les gens viennent. Des gens qui se sont enrichis plus ou moins légalement viennent acheter des grandes villas. En ce moment, il y a une série sur TF1, La Vengeance aux yeux clairs. Il y en a qui ont entendu parler de ce programme ? Personne ? Voilà, qui montre un peu qu'il y a des choses pas très belles qui se passent à Nice, on le sait, mais là, et vous vous dites, c'est bien beau, mais moi, je ne sais pas présenter l'Évangile. Ça, c'est fait pour les missionnaires, pour les pasteurs, pour les anciens dans les églises qui ont reçu des formations avancées. On pense qu'avant de pouvoir parler de Dieu, il faut tout connaître de Dieu. Réaliser que ce que vous savez de Dieu, du vrai Dieu, c'est déjà infiniment plus que le plus grand philosophe qui ne connaît pas Dieu, le plus grand mathématicien qui ne connaît pas Dieu. Vous pouvez annoncer l'Évangile de façon très simple. Remarquez bien quel était son message. Est-ce qu'il parlait de la preuve déontologique de l'existence de Dieu ? Est-ce qu'il voulait s'attacher à prouver que l'évolution ne pouvait pas avoir raison mathématiquement ? Alors, c'est pas mauvais de savoir débattre de ces choses, de savoir en parler. Mais tout ce qu'il disait, c'est dans 40 jours, c'est fini pour vous. Est-ce qu'on peut... Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. En français, c'est 6 mots. En hébreu, c'était seulement 5 mots. Un message simple de 5 mots. Vous pouvez dire à vos voisins, à vos amis, à vos collègues, est-ce que tu penses des fois à la mort ? Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver après la mort ? Est-ce que tu penses que tu pourrais mourir aujourd'hui ? Et si vous dites, oh, pas question, vous lui dites, écoute, il y a 2 mois, il y avait 86 personnes, 84, qui sont morts le jour même, qui n'avaient aucune idée, qui n'avaient pas marqué sur leur agenda, sur leur agenda électronique ou papier, ce soir, mourir. On ne connaît pas le jour ni l'heure. La seule certitude, c'est qu'on doit payer des impôts jusqu'à ce qu'on meure et que la mort arrive après. Vous pouvez simplement dire dans peu de temps, je serai parti, tu seras parti, où est-ce qu'on sera ? La peur d'être détruit, la peur de mourir. On dit oui, mais ça c'est des manipulations. C'est une réalité, c'est d'amener les gens à réfléchir à des certitudes. Je vous ai déjà évoqué, à Nice-Étoile, il y a un café au premier étage. Je ne sais plus si elles y sont toujours, mais il y avait des photos montrant Nice et la principale avenue, qui est maintenant Jean Médecin, qui s'appelait l'avenue de la Victoire et autre chose avant. Et on voyait des gens habillés avec des bottines, enfin chaussées de bottines avec des costumes et des cravates, et qui allaient, qui venaient, qui attrapaient les tramways, parce qu'il y avait déjà des tramways à l'époque. Et j'étais là, une fois, je voyais cette photo, je disais, tiens, on dirait vraiment la situation actuelle. Et puis je suis sorti dans la rue, puis je me suis dit, en fait, tous ces gens que j'ai vus sur la photo, aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et je dis, tous ces gens qui bougent, qui sont si pressés d'aller, de venir, de revenir amener des achats qui ne leur conviennent pas, qui vont manger un morceau ici ou là, qui ont rendez-vous avec leurs amis, dans quelques années, alors peut-être 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, ils ne seront plus qu'une photo sur les murs d'un café. Ils auront disparu. C'est une réalité. Nous pouvons parler. Et c'est, si on a de l'amour pour les gens et qu'on croit vraiment au salut en Jésus-Christ, on n'a pas à passer par le ventre d'une baleine pour être prêt à partager ce message. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et là, le plus grand réveil connu de l'histoire se passe là. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Il est vrai que Jonas, avec son aspect de 3 jours dans le ventre d'un grand poisson, dans l'estomac avec les algues et les sucs gastriques qu'il avait, il était bizarre, on le remarquait. Et lorsqu'il commençait à parler au coin des rues, « Dans 40 jours, Ninive sera détruite !» Les gens le regardaient et « Qu'est-ce qu'il dit ?» Ninive va être détruite. Et puis il savait sans doute qu'en fait il était ressuscité du grand poisson. Il était ressuscité, pour ainsi dire, des morts, soit s'il était mort vraiment et qu'il était revenu à la vie, soit qu'il ait passé quelque temps dans l'estomac du poisson. Le fait qu'il ait été régurgité, vomi, quel beau type de voyage, hein. Une croisière en Méditerranée. Il était un message. Les gens disaient, attends, ce gars-là, il a vécu des choses incroyables. Jésus disait dans Matthieu 12, il y a aujourd'hui quelqu'un de plus grand que Jonas, Jésus lui-même. Et les gens ne veulent pas l'écouter. Peut-être parce aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'en ont pas entendu parler. Ils ne savent pas qu'il y a un Dieu qui les aime au point de venir s'incarner en un homme, prendre toutes les limitations humaines et mourir en paiement de mes péchés. Et qui nous donne la vie éternelle si nous acceptons ce sacrifice. La plupart des gens autour de vous n'ont aucune idée de cet évangile. Ce qu'ils croient être l'évangile, c'est encore une vieille religion antique où on pèse le pour et le contre, le bien et le mal. Et on se dit que si je suis un bon citoyen, que je paye mes impôts sans trop tricher, si je montre un peu de sympathie à mes voisins, alors peut-être que la balance va pencher du bon côté, et si Dieu existe, on sait qu'il n'existe pas, à ce moment-là, j'aurai accès au paradis à une vie de félicité éternelle. Je ne mourrai plus, je serai vivant pour toujours. Mais ça, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est que Dieu est mort pour nos péchés. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de nous repentir. Et là, les habitants de Ninive crurent à Dieu et ils se repentent. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs. C'était des sacs en l'équivalent de sacs de toile de jute, là où on trouve, on met les sacs, comme des sacs de blé ou des sacs de café. Et c'était un signe de deuil. On quittait les vêtements qui étaient beaux. On voit que le roi le fait lui-même. Et on se couvre d'un sac pour se vêtir, mais c'est un signe d'humilité, de deuil. C'est un signe de dire que je n'ai rien en moi qui vaille la peine d'être remarqué. Le roi s'assoit même sur la cendre. Ça fait penser à des populations qui ont été vaincues, où leur ville a été mise à feu et à sang. Ils se retrouvent avec rien. Ils sont assis sur la cendre. Et le roi lui-même, ayant appris la nouvelle de ces gens qui s'habillaient de sacs, le fait de même, et il fait une proclamation, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et même les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Un jeûne, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Ce livre de la Bible, il parle de repentance. Jonas, il a fallu que Dieu le mette dans des circonstances terribles, mais Jonas s'est repenti. Là, la ville de Ninive, les habitants de Ninive se repentent. Et au verset 10, on voit qu'il semble que ce soit Dieu aussi qui se repente. La repentance, c'est une bonne chose. La repentance, c'est quelque chose de merveilleux, parce que ça vous permet de passer d'une vie de péché à une vie avec Dieu. Se repentir, c'est faire un changement de direction, non seulement moral, spirituel, c'est pas seulement un changement du cœur, c'est un changement qui se manifeste par des actes qui sont radicalement différents de ceux auxquels on se livrait auparavant. Le mot de repentance, aujourd'hui, si je vous dis repentance, vous penserez peut-être au gars de la mafia qui donne le nom de toute l'organisation autour d'eux, et on dit que ce sont des repentis, ils ont besoin de protection policière parce qu'on va chercher à leur faire la peau. Mais sinon, la repentance, c'est plus quelque chose que l'on pratique, c'est plus quelque chose dont on veut entendre parler. Et je l'ai partagé déjà, mais quand j'étais étudiant à Aix-en-Provence, j'avais rencontré Nancy dans une boîte de nuit, étudiante, c'était pas encore Travolta et le disco de l'époque, des années 80, non, ça c'était en 60, dans les années 70. Et on avait été élevés tous les deux catholiques, Nancy encore plus sérieusement que moi. Son papa l'emmenait à la messe en latin tous les matins. Mais à l'adolescence, on voulait la liberté. Donc on avait vécu ensemble dans le péché. Mais plusieurs années plus tard, j'ai remarqué le sens de l'humour de Dieu. Notre adresse, si vous nous l'aviez demandé à l'époque, c'était chez Monsieur et Madame Higoulin, chemin de la repentance à Aix-en-Provence. La repentance. On est passé il y a quelques années, ce chemin de la repentance existe toujours. Vous n'avez pas à y aller pour faire œuvre de repentance, mais la repentance, c'est quelque chose de beau et de bon. La repentance, c'est comme le WD-40, c'est de la vie chrétienne. Si vous offensez quelqu'un et que le lendemain vous allez leur dire « je te demande pardon, je me repens », vous allez être surpris de la réaction des gens. C'est quelque chose d'inhabituel, c'est quelque chose qui n'est pas de ce monde. Ça doit être inspiré par l'Esprit Saint, mais si vous avez la moindre doute, si vous devez demander pardon à quelqu'un, de grâce, faites-le. Si vous sentez cette petite voix, quel que soit le prix apparent, parce que la joie qui va en dériver sera merveilleuse pour les autres comme pour vous. La repentance. Je connaissais un pasteur écrivain anglais, Stanley Vaux, et c'était le prédicateur de la repentance. Chaque fois qu'il passait dans une conférence où j'étais, ou à l'église où j'étais aux États-Unis, on savait qu'il allait nous parler de repentance. Et il avait un test. Lorsqu'il entendait quelqu'un dire « on a un jeune chez nous qui est vraiment formidable, il va prêcher tous les semaines dans la rue, il organise des concerts », et Stanley, avec son accent anglais, demandait simplement « Yes, that's wonderful, but does he repent ?» Est-ce que cette personne a l'habitude, ou est-ce que vous l'avez jamais vu, se repentir ?« Do I repent ?»« Do you repent ?» Jonas s'est repenti et les habitants de la ville se repentent. La repentance, ce n'est pas seulement être désolé pour ce qu'on a fait, c'est être désolé au point de corriger nos actions, au point de changer nos actions. Et c'est ce qu'ils font, ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Et ils le font, remarquez bien, verset 9, « Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision de griller tout le monde à Ninive dans 40 jours ?» De sorte qu'il renonce à son ardente colère et que nous ne mourions pas. Ils n'étaient même pas sûrs que ça allait marcher. Ils le faisaient parce que leur cœur était touché. La peur d'une éternité sans Dieu les saisissait et ils étaient prêts à se repentir, à dire qu'ils regrettaient leurs actes, à cesser de vivre et d'aller vers le péché, toujours plus de péché, pour se détourner et d'aller vers Dieu en montrant des actes dignes de la repentance. Une expression qu'on trouve par ailleurs dans la Bible. Dieu, verset 10, vit ce qu'il faisait, il vit qu'il renonçait à leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Dieu voit lorsque vous vous repentez. Dieu remarque et il peut changer ce qui nous semblait inéluctable. Alors, lorsqu'il est dit que Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas, l'auteur, Jonas, utilise ce qu'on appelle un anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'il utilise des expressions qui se rapportent à l'homme, à sa vie, pour exprimer des choses qui se rapportent à Dieu. Dieu donne l'impression de regretter parce que le mal qui avait été prophétisé, s'il n'y avait pas repentance, ne va pas se passer. Dieu n'est pas un homme, il est dit dans le livre des Nombres, pour changer d'avis, pour ne pas faire ce qu'il a promis. Là, c'était une promesse conditionnelle. Sous-entendu, vous avez 40 jours pour changer. Sinon, il n'aurait pas donné 40 jours à Ninive. Le fait qu'il y avait une durée de temps avant la destruction, c'était bien la preuve qu'il voulait une repentance. Le fait que Dieu ne nous a pas encore détruits, que la grande tribulation n'est pas arrivée, c'est que Dieu va encore sauver des hommes. Dieu va encore que nous nous repentions. Certains, ce sera pour la première fois en venant à Christ. D'autres, ce sera pour confesser nos péchés, sachant qu'il est juste pour pardonner toutes nos iniquités, nous laver de tous nos péchés et nous donner cette merveilleuse deuxième, troisième, quatrième, cinquième chance. C'est le plus grand réveil de l'histoire. On verra dans le dernier chapitre que 100% de la population, même les animaux, on se demande comment ils arrivaient à enfiler un petit sac en toile de jute sur les petits chiens. On voit des dames qui font ça des fois à Nice l'hiver. Mais il y avait un tel sentiment de culpabilité que tout ce qui bougeait, les hommes voulaient dire qu'il y avait de la repentance. Il n'avait pas besoin d'avoir fait des grandes études. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et l'obéissance à Dieu produit des choses fantastiques. Nul ne peut dire ce que Dieu fera avec vous si vous décidez de lui obéir. On dit que le grand évangéliste Dale Moody, un évangéliste américain au XIXe siècle, qui a créé des instituts, on bénéficie encore des œuvres de cet institut qui produit des vidéos chrétiennes, etc., et qui a toujours des écoles. Il avait entendu dire un prédicateur qui disait que Dieu, il était impossible de savoir ce que Dieu pourrait faire avec quelqu'un qui était déterminé à être à lui complètement. Il dit que le jour où il avait entendu ce message, il s'était dit, avec l'aide de Dieu, je serai un tel homme. Et tous autant que nous sommes, il n'est jamais trop tard. Vous avez l'impression de sortir de la tête de l'eau ou le corps de l'estomac du poisson. Si vous résolvez, si vous décidez avec détermination de faire avec l'aide de Dieu tout pour lui plaire, comme on dit en anglais, le ciel est la limite. Il n'y a plus de limite à ce que Dieu peut faire avec une personne qui décide de le suivre. C'est une des leçons du prophète Jonas. On continuera la semaine prochaine. Mais on voit, même les grands évangélistes aujourd'hui, ils sont contents lorsque il y a 10 000 personnes sur un stade de 100 000 qui s'avancent pour recevoir le Seigneur. Là, toute la ville devant l'obéissance de ce gars à moitié bouffé par les sucs gastriques du poisson leur annonce qu'il n'y en a plus pour longtemps. Et ce message, vous pouvez l'annoncer. Vous n'avez pas besoin de vous tondre la tête, quoi que ça puisse peut-être aider, je ne sais pas, ou d'être bizarre, mais annoncez-le avec amour. Amen. Prions. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu d'amour incroyable qui ne recule devant rien pour amener tous les hommes à la repentance et au salut. Comment pourrions-nous en douter quand nous savons que c'est ton Fils Jésus que tu as envoyé, qui est venu mourir à notre place, qui s'est incarné en homme faible et limité, avec toutes les limitations humaines, Seigneur, qui s'est, par amour pour nous, qui s'est offert en sacrifice et qui nous dit que si nous venons à lui dans la foi, alors nous avons la vie éternelle. Comment pourrions-nous douter que tu ne fais pas tout pour sauver tous les hommes, Seigneur ? Tu nous le rappelles avec ce prophète que tu fais passer par des choses extrêmes pour qu'il annonce un simple message conduisant à la repentance. Seigneur, nous savons au fond de nous que si nous continuons à faire le mal, une justice divine nous rattrapera. Certains pensent que c'est peut-être simplement des conséquences terrestres qui nous rattrapent lorsque nous sommes aigris. Nous avons des problèmes de digestion, nous avons des problèmes cardiaques, le stress nous raccourcit nos vies. Mais Seigneur, ça va au-delà du physique sur la terre, c'est pour une vie d'éternité avec toi. Seigneur, je veux te prier. Ce matin, si parmi nous, il y en a, pendant qu'on continue dans la prière, s'il y en a qui réalisent qu'ils ont besoin de se repentir, de demander pardon sincèrement à Dieu et de changer de voie, d'aller vers lui plutôt que de se complaire ou d'aller vers plus de péché, je vous demanderai de lever la main. Sachez que ça doit être une décision de votre part. Voyez que les habitants de Ninive ont dû croire à Dieu. Ils ont proclamé un jeûne, ils se sont mis dans une attitude d'humilité, de pécheurs. Et Seigneur, c'est seulement lorsque nous reconnaissons nos péchés que tu peux nous sauver. Si parmi vous il y en a qui sont prêts à reconnaître leurs péchés, qui n'ont jamais encore reçu le Seigneur, vous pouvez le faire maintenant. C'est la décision la plus importante qui soit. Parce que dans 40 jours, dans 40 ans, dans 400 ans, nous serons tous partis. Et Seigneur, tout dépend. Notre félicité éternel dépend de cette décision de nous repentir, de venir à toi par Christ. Merci Seigneur de ce que tu as fait que ce soit si simple pour être sauvé, Seigneur. Aide-nous aussi à être ceux qui l'annonçons avec amour et simplicité à nos voisins, nos familles, nos collègues. Sois glorifié, Seigneur, dans cette ville de Nice, Seigneur. Prions ces choses dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.